Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour Parler temps qui court. Tous les soirs, c'est une conversation qui dure une heure. Et ce soir, c'est avec Geneviève Bressac.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent,
Marie Richeux et Geneviève Brisac.
Si la vie repose sur une base, écrit Virginia Woolf dans Instant de vie, et si c'est une coupe que l'on remplit indéfiniment et qui se vide indéfiniment, alors ma coupe, à n'en pas douter, c'est un souvenir du jardin du Luxembourg sous la neige, avec ses grilles noires et pointues, ses bouquets d'arbres sombres et dénudés, dont les longs bras s'agitent vers le ciel blanc, comme s'il se lamentait, et ses statues de femmes immobiles et mélancoliques et seules. Je me souviens d'une inscription sous la statue de Marguerite d'Anjou, reine d'Angleterre, « Si vous ne respectez pas une reine proscrite, respectez une mère malheureuse. » Il me semblait enfant que cette inscription concentrait toute l'inquiétude de mon âme. Les persécutions, les abus, les pogroms, les viols et les assassinats, le combat inégal entre la parole et la force, je le lisais et le relisais quand j'avais 7 ans, sur le bas de la jupe de la reine de pierre. C'est un extrait de votre livre « La marche du cavalier » Geneviève Brissac, réédité 17 ans plus tard aux éditions de l'Olivier et surtitré cette fois « Sisyphe est une femme, bonsoir ».
Bonsoir
et bienvenue.
Merci beaucoup.
Pour moi, c'est un extrait qui est vraiment représentatif du livre dont on va parler ce soir, peut-être pour en dire quelques mots à nos auditrices et nos auditeurs. C'est un essai sur la lecture, c'est un essai sur des écrivaines, un essai, j'entends bien. Et puis c'est aussi tissé d'un écrit ou d'un récit beaucoup plus intime sur ce que c'est que l'acte d'écrire, par conséquent pour vous, sur ce que c'est que l'acte de lire, pour vous, et l'acte de vivre pour toutes ces femmes, dont vous. Voilà. On va dire que c'est résumable de cette manière-là ?
Très bon résumé. C'est un très bon résumé. C'est vrai, et c'est vrai aussi que les années passant, vous savez que c'est en faisant les choses vous modifient progressivement. Évidemment, pour moi aujourd'hui, lire, écrire et traverser les jardins de Luxembourg ont fini par devenir à peu près une seule et même chose.
Qui se compilerait dans vivre ?
Qui se condenserait, et c'est certain qu'en marchant, on écrit, qu'en écrit, on rêve, qu'en rêvant, on se souvient, qu'en lisant, on rêve encore, et que tout ça fait un tissage. C'est une écrivaine que j'adore, qui s'appelle Sylvia Tonsen-Warner, la plus inconnue de mes compagnes de ce livre, qui parle de ça, du tissage de l'écriture.
Et c'est vraiment un livre qui se permet ça, c'est-à-dire qu'il est évidemment chapitré par écrivaine, mais en fait tout est tout le temps mélangé et les écrivaines peuvent s'inviter dans des chapitres qui sont consacrés à d'autres. Enfin, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Ce que je n'ai pas dit, c'est que ça peut aussi se lire, ça doit peut-être aussi se lire comme un manifeste pour l'égalité de traitement, tous les traitements entre les écrivaines et les écrivains. Et il y a, comme pour tout bon manifeste, des hypothèses.
Je pose l'hypothèse, parce que je suis une femme, que d'autres femmes, mes aînées, peuvent m'aider à y voir plus clair. Cela ne veut pas dire que des écrivains mâles ne m'y aident pas, ce serait inexact. Disons qu'aujourd'hui, c'est aux femmes que je demande de l'aide. Je pose l'hypothèse que certaines d'entre elles, les plus exigeantes, les plus rebelles, les plus profondes, ont des raisons proches des miennes de résister à l'état du monde. Que leurs livres me répondent et me soutiennent. J'écris ce livre, poussé par une urgence. Il est possible que nous ne sachions plus lire, il est possible que nous ayons remplacé notre goût des livres par le goût des moulinets. J'écris ce livre pour défendre ce que j'aime. Les histoires dont nous avons besoin pour vivre, comme nous avons besoin d'eau. La littérature qui n'est ni véhicule idéologique, ni forme pure, mais autre chose. La beauté mystérieuse des scènes, des phrases, des personnages qui nous laissent silencieux et nourris. Les émotions de pensée. La littérature qui ne sert à rien que cela.
Alors vous disiez, Geneviève Bressac, que les choses se confondaient et que à la place de marcher dans le Luxembourg, parfois il y a à écrire marcher dans le Luxembourg ou lire marcher dans le Luxembourg. Il y a d'autres choses qui se confondent dans cette réédition, c'est les mots d'hier et les mots d'aujourd'hui. Il y a plein d'indices qui nous font dire « Ah ça, c'est vraiment un truc qu'elle a écrit en 2018-2019. Ah ça, c'est vraiment quelque chose qu'elle a écrit plus tôt. » Alors ce qu'on vient d'entendre dans la voix de Romain de Bec-de-Lièvre, ce sont des mots de quand ?
Non, c'est des mots d'hier. C'est les mots d'hier. Alors parce que c'était parti quand même d'une grande colère, cette histoire de la marche du cavalier il y a 18 ans, puisqu'il a fallu le temps que ce soit publié, 18-19 ans. J'avais déjà écrit... un livre en tout cas, sinon plusieurs autour des femmes, autour des écrivaines, en particulier sur Flannery O'Connor. Et je n'en revenais pas de la différence de traitement qu'il y avait entre Flannery O'Connor, qui pour moi est un pur génie, et son comparse William Faulkner, qui est un pur génie aussi. Sauf que tout le monde connaît Faulkner et l'a lu, et pratiquement en France, personne ne connaît Flannery O'Connor, malgré mes efforts, et je ne comprends pas. Donc il y avait ce sentiment d'injustice, cet agacement, cet énervement. Et je m'étais dit, il faut que je comprenne pourquoi les femmes qui écrivent, les écrivaines, finalement ont tellement de mal à accéder à la lisibilité, à être lues, à être reconnues, à être légitimes, et à être reconnues comme les génies qu'elles sont parfois ou souvent comme leur frère d'armes masculin. Et c'est pas si facile. La raison n'en est pas évidente. La première chose que je m'étais dite dans la trace de Virginia Woolf, c'est que nous toutes, quand nous sommes petites et que nous apprenons à lire, nous lisons des écrivains du corpus, c'est-à-dire que nous lisons très petite et même beaucoup trop petite, Molière, Pascal, La Fontaine et Corneille, Rousseau, etc., etc., Alexandre Dumas et Victor Hugo, Chateaubriand et Zola. Enfin, je peux continuer à l'infini comme ça, mais dans toutes ces immenses écrivains, il n'y a pas de femmes. Alors, en général, il y a quelqu'un qui dit « Excuse-moi, il y a George Sand. » Oui, oui, d'accord, il y a George Sand. Mais nous, les futures écrivaines, les petites filles qui vont devenir écrivaines coûte que coûte pour mille raisons différentes, nous lisons les œuvres d'hommes qui, comme le dit Virginia Woolf, n'ont pas le même souffle, la même cage thoracique, la même perception du monde, la même histoire, ne sont pas confrontés aux mêmes difficultés. Et d'ailleurs, pour la plupart, seront amenés à faire la guerre, ce qui est assez rarement notre cas, ce qui fait une énorme différence aussi. Et donc, je m'étais dit ça, mais comment avoir confiance en soi si tous les génies auxquels on se réfère font partie de l'autre catégorie, comme
mais
dit
là, c'est déjà, mais là, c'est déjà avancé une hypothèse que la raison pour laquelle elles seraient traitées différemment, c'est qu'elles n'ont pas confiance en elles. Or, non, vos hypothèses, elles sont hyper différentes. Je ne sais pas ça qu'elles sont multiples. Et ce qui est intéressant, c'est que vous commenciez, on vient d'entendre dans la voix de Romain de Bec-de-Lièvre, par dire « y voir plus clair ». Et à la fin de votre livre, vous arrivez à d'autres hypothèses d'opacité et de secret. Par exemple, une des choses, parce que vous avancez en comprenant. Vous écrivez même « c'est parce que je suis en train d'écrire que je suis en train de comprendre et je suis en train de répondre à mes questions ».
C'est
vrai. Mais vous aboutissez notamment à des questions de secret et à dire peut-être ces femmes-là n'ont pas obtenu le même traitement aussi parce qu'elles ont refusé de jouer un certain jeu social.
C'est vrai.
Ce serait l'une des réponses, Geneviève Bressac ?
C'en est une. C'est pour certaines des écrivaines dont je parle, c'est absolument certain. Prenons l'exemple de Christiane Rochefort, c'est absolument évident. De Sylvia Thompson-Warner, c'est évident. De Jean Rhys, c'est évident. Il y a vraiment des cas pour lesquels c'est absolument évident. Mais si vous avez raison, les facteurs sont mêlés, comme toujours pour la question des femmes et la question du patriarcat. On sait jamais, parce que dès qu'on attrape un bout du problème, en général, il se dérobe et on se retrouve complètement désarçonné, si on est honnête. En disant, oui, au fond, finalement, c'est pas ça qui joue. Donc peut-être c'est juste finalement que les femmes n'ont pas de génie. Bon, ben, je vais donc remballer mes affaires. Et,
ce que vous ne faites pas.
Passer à autre chose. Ça arrive à toutes les femmes, je pense. De se dire, au fond, sans doute, je me suis trompée. Au fond, finalement, on me l'a bien répété depuis toujours. C'est aux hommes la création, aux femmes les enfants. Dans un des chapitres nouveaux est très important pour moi dans ce livre, qui est celui qui est consacré à Natalia Ginzburg, même si je parle d'autres écrivaines dans celui-là aussi. Natalia Ginzburg décrit très bien. Peut-être il faut que je dise deux mots
toujours
d'elle. Donc Natalia Ginzburg, elle naît au début du siècle. Elle, c'est une Italienne de famille russe juive et italienne juive depuis très longtemps, la famille Lévy, turinois. Et elle écrit un livre très, je vais assez rapidement là-dessus quand même. Donc elle écrit un livre qui est devenu très célèbre, qui s'appelle Les mots de la tribu, où elle analyse comme un petit fantôme les phrases qui circulent autour d'elle et au-dessus d'elle et qui forment un tissu de langue, les mots de la tribu. Et en particulier le langage de son père qui est absolument désopilant, très très drôle, mais aussi violent et profondément inhibant. Il s'agit quand même au-dessus de ça, de beaucoup de ça. Donc, ce que je voulais dire sur Natalia Ginzburg, c'est qu'elle a eu des enfants. Elle en a même eu beaucoup. Et à chaque fois, au début, elle dit « Quand j'ai eu mes premiers enfants, je me suis dit qu'écrire ne m'intéressait plus du tout parce que j'avais des enfants. » C'est une vraie... Comme c'est une femme d'une honnêteté absolument radicale, elle le dit carrément. Et c'est bien qu'elle le dise, parce que pour toutes les femmes qui viennent d'avoir un enfant et qui se disent « Oh là là, mais j'ai plus... » Alors, il y a celles qui ont toujours envie d'écrire, puis il y a celles qui n'ont plus envie d'écrire, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire ni sur le génie, ni sur ce qu'elles vont faire ensuite. Ça ne veut rien dire sur rien. Mais elle dit, à un moment donné, pour moi, il n'y avait rien de plus important que mes bébés. Et puis, à un moment donné, il n'y avait rien de plus important que de m'y remettre. Et Alice Munro dit des choses assez semblables. Et c'est très, très, très réconfortant de lire ces analyses puissantes, très intelligentes, de comment ça se passe pour une femme de se passionner pour ses enfants et de se passionner pour la littérature.
Y compris quand c'est une femme qui écrit qu'elle ne les supporte pas ou que Absolument. Les pleurs sont très difficiles. Ça ne veut pas dire que parce que c'est difficile ou parce que c'est violentant, elle irait se réfugier dans l'écriture. Mais ce que vous dites, Geneviève Brissac, ça me fait penser à aussi ce que vous écrivez de Nathalie Sarraute, qui se serait, par prudence ou stratégie, bien gardée d'écrire sur la judéité et sur les enfants. Alors, ça peut nous faire avancer sur le terrain des hypothèses, à savoir, est-ce qu'une question de la réception ou du traitement, ça pourrait avoir à faire avec, sans en faire un trait essentialiste, mais la maternité, une sorte de vie quotidienne. Vous écrivez que chez Ginzburg, il y a plus d'enfants que dans la moitié de la littérature des écrivains hommes. Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui nous renseigne? Et sur quoi?
Ben, ce qui nous renseigne, ça nous renseigne sur le mode de vie des gens. Il est certain que, jusqu'à nouvel ordre, il est très possible que ça change. Enfin, pour le moment, j'en vois pas tant de signes que ça. Mais... les femmes, qu'elles soient écrivaines ou qu'elles fassent autre chose, sont quand même confrontées aux obligations temporelles liées aux enfants, parce qu'elles ont aussi acquis au fil des siècles une souplesse d'adaptation, une capacité de penser à 18 choses en même temps, dont on pourrait penser, quand c'est le cas de Napoléon, que c'est le propre du génie, et quand c'est le cas des femmes, que c'est une bonne capacité d'organisation. Mais le fait de se dire en même temps, le dentiste, les vêtements, ma belle-mère, les courses, écrire mon histoire, écrire aux impôts, etc., etc. Cette façon d'être là, ça reste quand même extrêmement féminin. Je pense que Grace Pelly, dont je parle très longuement, écrit bien ça. Grace Pelly, c'est donc une Américaine, encore une juive russe d'origine, qui est venue en 1905. Hein, et elle raconte des histoires de squares. J'adore, moi, les histoires de squares. J'ai toujours adoré les histoires de tas de sable et de squares et d'enfants. Et il y a la première phrase d'une des nouvelles, c'est une phrase que j'adore. Elle rencontre son ex-mari, elle lui dit « Salut ma vie ». Et son ex-mari lui dit « Alors là, ça m'étonnerait que t'aies jamais été ma vie hein. ». Il y a un échange comme ça, très violent, et elle rapporte à la bibliothèque un roman d'Edith Wharton, et on voit le jardin, les arbres, le tas de sable, son petit garçon, son mari, la bibliothèque, et on est en plein dans la vie la plus intense qui soit.
Oui, mais alors ça, ce qui est encore une fois très intéressant, c'est qu'il y a à la fois les contraintes, on va dire, matérielles, qui font de la vie des écrivaines qui ont choisi d'avoir des enfants une vie qui doit composer avec ça, mais il y a aussi la manière dont ça peut arriver dans la littérature, comme force de récit, comme scène, pour reprendre les mots de Virginia Woolf, comme des scènes qui se dessinent, où il y a des enfants qui sont là. Alors ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'on a moins envie de lire ça? Qu'il y a un présupposé d'ennui, comme vous l'écrivez, que ça va tout de suite nous rebuter de se dire « Ah, ce qui va nous être dépeint dans ce bouquin, ça va être juste la vie comme elle va ?»
Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est pour ce qui concerne les hommes, les garçons, mes camarades, les vôtres, quand ils prennent Mrs. Dalloway entre leurs mains et qu'ils lisent Mrs. Dalloway dit qu'elle s'occuperait des fleurs ou qu'elle se chargerait elle-même des fleurs, ils me l'ont avoué, beaucoup d'entre eux, ça leur donne une irrésistible envie de faire la sieste. Madame Dalloway, qui va acheter des fleurs, alors déjà les fleurs, bon, d'accord, et se charger d'acheter les fleurs et quoi encore? C'est tellement ennuyeux. Donc il y a ce côté-là. Grace Paley le dit aussi, elle dit qu'elle écrivait ses histoires parce qu'elle pouvait pas s'en empêcher, mais qu'elle était certaine que c'était monstrueusement ennuyeux. Et là, on revient sur l'histoire du capital culturel d'origine, c'est-à-dire que c'est vrai que pour mille raisons, sans faire de généralité sociologique, les groupes sociaux qui n'ont pas l'habitude d'être dominants ont légèrement tendance à penser qu'ils sont moins intéressants que ceux qui sont totalement dominants. Enfin, de manière un peu polie, mais ça semble... Enfin, il suffit de regarder, un chef d'État en train de plastronner, ou je sais pas, Berlusconi à la télévision.
Vous voulez dire qu'il affiche peu de doutes, quoi.
Ils sont très contents d'être eux, qui est rarement le cas des gens sur qui on tape.
Vous parlez même, concernant certaines femmes écrivaines, d'une tendance à l'auto-anéantissement. Enfin, c'est vrai. Pas vous qui en parlez.
Oui. Mais... C'est Christa Wolf, je crois, qui dit qu'elle n'imagine pas une seule femme s'aventurant sur la scène culturelle, dit-elle, qui n'ait pas éprouvé violemment le désir de l'auto-anéantissement. Et ça, je crois que c'est vrai. Et c'est vrai aussi... à différentes périodes de la vie, dans le middle age de l'invisibilité maximale. Ça, c'est absolument certain. Mais au début, on n'est pas au courant de... On arrive un peu la fleur au fusil, hein, c'est normal, comme tout le monde. Donc, on est convaincu qu'on va être accueilli. Moi, je me souviens très bien, la première fois que j'ai écrit un livre qui se passait dans un square, justement, pour venger mes dimanches au square, sous la pluie et le froid, je me suis dit, ça n'a jamais été dit. Alors là, on va voir la différence. Et puis, on découvre qu'en fait, ça n'a jamais été dit, peut-être. Ça a été un petit peu dit, mais ça n'a pas été vraiment dit. Et que par ailleurs, ça n'intéresse pas tant que ça. Et que il y a en face un groupe social, les écrivains masculinis généristes, dirait Hannah Arendt, qui ne veulent pas en entendre parler parce qu'ils sont profondément convaincus, comme disait Vladimir Nabokov, sur qui je m'appuie beaucoup au début de ce livre, ils sont profondément convaincus que les femmes, les écrivaines, ne sont pas de la même catégorie. Donc je vais vous parler de Nabokov dans une seconde, mais hier je traversais le Luxembourg. En fait, on pourrait
passer
penser, mais c'est pas faux.
C'est pas possible. Donc, c'est donc un jardin.
Oui, un jardin parisien.
Parisien, 5e ou 6e arrondissement.
5e arrondissement, voilà. Un beau jardin rempli
pas très loin
de...
du Panthéon. Mmh. Pas très loin du Panthéon.
Pas très loin du Panthéon, qui est en ce moment, comme tous les jardins d'ailleurs, de France et de Navarre, est à son sommet de beauté, parce que, enfin, vous savez pourquoi, c'est l'automne, je vous le révèle. Et donc, il y avait une femme qui parlait, parce que c'est aussi les vacances scolaires, donc il y avait une grand-mère qui était assise sur un banc avec une petite fille. Elle lui disait, tu te rends compte, quand j'étais plus jeune, on parlait des écrivains. Eh bien, figure-toi, disait-elle d'un ton furieux, que maintenant, ils veulent qu'on dise les écrivaines. Et alors, la petite fille était un peu... n'arrivait pas à voir, je crois, très bien ce que voulait dire sa grand-mère. Moi non plus. Mais enfin, elle était vraiment pas contente du tout, du tout, du tout.
Ça ressemble presque à une fable.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai. Alors, vous vouliez nous parler de Nabokov, parce que c'est sur ce terrain du début du livre, vous avancez des hypothèses, vous cherchez, pour vous citer, à y voir plus clair. Nabokov, lui, avance des préjugés.
Oui.
Quel genre de préjugés?
Alors, Nabokov, On lui a commandé une conférence pour Cornell University, je crois, aux États-Unis. Une conférence très bien payée. Et le Wilson, le monsieur qui lui commande la conférence, lui a demandé de faire une conférence sur Jane Austen. Il en a fait déjà beaucoup sur Kafka, Tchekhov.
Qui est donc l'auteur de L'Orgueil et Préjugé. Orgueil et Préjugé.
Magnifique. Et alors, Nabokov dit, excusez-moi, cher ami, mais il est hors de question que je fasse une conférence sur Jane Austen. Elle m'ennuie d'avance à mourir. Pour moi, les femmes sont une autre catégorie, car en les lisant, je ne ressens pas ce petit frémissement dans ma moelle épinière que doit susciter la littérature. Ça, évidemment, qu'est-ce qu'on y peut ? Très, très décourageant. Mais Wilson, qui n'était pas une femme, mais un homme, lui dit, mon cher Nabokov, je m'en fiche complètement, enfin, il ne lui dit pas comme ça, il lui dit, je vous paye pour faire une conférence sur Nabokov, donc
sur
Jane Austen, donc vous la faites. Il s'exécute. Comme c'est un très très bon analyste littéraire, il fait une conférence magnifique, passionnante, et il la rend à Wilson en lui disant, écoutez, bon d'accord, votre Jane Austen là, c'est un écrivain, on ne peut pas dire le contraire, mais je me suis tellement ennuyée, vous comprenez, ces dentelles, ces machins, ces trucs. Et il appelle ça la fossette d'ironie, et puis la marche du cavalier, ce qu'il appelle la marche du cavalier, cette manière d'avancer et puis de faire un pas de côté, c'est vraiment horripilant. C'est pas, effectivement, c'est pas, je sais pas comment dire, Waterloo, quoi. C'est un autre genre.
Ça veut dire que quoi ? Il y aurait une façon de se dérober, c'est aussi la fossette, c'est aussi l'ironie que vous décelez chez beaucoup des écrivaines que vous aimez, c'est une intelligence par l'humour, ce serait ça qui déstabiliserait ?
Je crois, franchement c'est vrai que c'est toujours des hypothèses qui sont modifiées par d'autres hypothèses, mais il me semble que les... Et puis après tout, il faut leur demander à eux qu'est-ce qui leur plaît tellement pas.
Oui, mais ça vous renseigne, vous, de réfléchir à ce qui leur plaît
bien
pas,
sûr,
manifestement.
Mais je vois bien que c'est quelque chose qui a quand même pas mal à voir avec des métaphores sexuelles, de puissance, d'éjaculation, de bagarre, de taille du livre. Et vous connaissez beaucoup de femmes qui écrivent des livres de 5000 pages comme Bidule et Joyce. Hein, qu'est-ce que vous en faites de Joyce ? Et je me souviens très bien quand nous avons écrit avec Agnès de Sarthe notre essai sur Virginia Woolf, où qu'on aille, puisqu'on a fait pas mal les missionnaires cette année-là, où qu'on aille, il y avait toujours un type qui se levait et qui, d'un air courroucé, disait « Et Joyce, vous y avez pensé à Joyce ?» Alors, on disait « Oui, oui, on a pensé à Joyce, mais alors là, aujourd'hui, c'est Virginia Woolf. Occupez-vous donc de Joyce. » Et ce truc de « Pourquoi vous vous occupez pas plutôt de ?» on le retrouve tout le temps. Si je dis aujourd'hui beaucoup de femmes ont été oubliées, je peux être certaine qu'il y aura quelqu'un qui me dira « Et des hommes, ils n'ont pas été oubliés, les hommes ?» Je dis « Oui, beaucoup d'hommes ont été oubliés, mais là, pour le moment, pardon, excusez-moi, pendant 5 minutes, je réfléchis à pourquoi les femmes sont effacées. » Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont effacés. Hein. Et c'est très difficile de faire face à cette adéquation à soi-même qui, pour moi, est extraordinairement reconnaissable.
Alors moi, ce que je trouve aussi assez intéressant dans La Marche du Cavalier, surtitré Sisyphe est une femme, Geneviève Brissac, c'est qu'à la fois, vous faites ce genre d'hypothèses-là, qui sont des hypothèses aussi de réception. D'ailleurs, parfois, vous dites que vous n'êtes pas sociologue, donc il y a des choses que vous ne pourrez pas tirer au clair. Et puis après, il y a aussi cette manière d'être les deux pieds dans la littérature et de dire que cette difficulté de réception, cette incompréhension, etc., c'est aussi une faille dans laquelle les femmes se tiennent et continuent de se tenir et continuent d'écrire. Et écrivent des choses, et c'est là qu'une des hypothèses, elle est questionnée, vous n'allez pas au bout de ça, mais des choses de femmes. Alors il y aurait cette fameuse création sexuée à laquelle vous...
Laquelle vous, je ne crois pas plus que ça.
Vous ne croyez pas non plus, voilà, dès l'introduction, vous dites « Ah, ça fait partie des trucs, il va falloir que aussi je discute, mais j'en suis pas certaine.
Ce serait comme le darwinisme, c'est-à-dire je peux dire effectivement quand on a... Par exemple, dans toutes les femmes que je visite, on peut dire, c'est des visites, des rencontres où on bavarde, je donne aussi mon point de vue, elles donnent le leur, etc., etc. Toutes elles disent que quand elles étaient petites, on les a convaincues qu'elles étaient méchantes. Ça, c'est vraiment très intéressant. Alors que la plupart des petits garçons que je connais, genre Romain Gary, etc., Proust, enfin, on les a convaincus qu'ils étaient vraiment adorables. Donc, moi, ça m'a toujours fait rire comme hypothèse. C'est juste mon hypothèse du jour, mais je la trouve assez drôle. Prenez Nathalie Sarraute. Nathalie Sarraute, à laquelle j'aurais pu faire une plus grande place, mais ce sera peut-être pour une autre fois, quand ce livre, ça sera devenu un tel classique que je serai obligée de faire un autre épisode, disons. Et Nathalie Sarraute raconte qu'elle est avec sa mère. Nathalie Sarraute, sa caractéristique, et qui peut-être explique son côté marane et son côté prudent, c'est qu'elle est née en 1900 et ses parents ont divorcé très tôt. Or, à une époque où quand même les parents ne divorçaient pas tant que ça, son père...
En tout cas, c'était pas extraordinairement bien vu.
Non, et son père est à Paris, sa mère est à Pétersbourg. Mais il y a un moment où elle est avec sa mère et alors elle est traversée par des pensées. C'est très intéressant aussi la question de la pensée des petites filles. Enfin, moi, ça, j'adore ça. Et alors elle dit, je suis traversée par une pensée, la poupée, une telle, est beaucoup plus belle que ma mère. Il faut absolument que je lui dise, il faut que je lui dise. Et donc, elle va voir sa mère, elle lui dit, écoute, je suis très embêtée de te le dire, mais la poupée, une telle, est beaucoup plus belle que toi. Elle espère que sa mère va prendre ça bien, mais sa mère le prend hyper mal. Elle lui dit, comment tu peux dire une chose pareille? Tu es vraiment une petite fille sans cœur. Tous les enfants trouvent que leur mère est la plus belle du monde. Donc elle est extrêmement embêtée parce que comme elle est rationnelle, elle dit oui mais t'as les yeux beaucoup plus petits que la poupée et puis ils sont pas de la même taille et puis tes deux côtés du visage sont inégaux et différents et la poupée ils sont tout à fait, c'est ça les critères de la beauté. Donc sa mère est fâchée et puis une semaine ou deux plus tard, elle revient, elle a encore une pensée qui l'obsède et la torture, il faut qu'elle le dise à sa mère et elle lui dit maman, j'ai l'impression que tu as exactement la peau d'un singe. Et elle espère que sa mère va lui dire, ma chérie, les singes ont une si jolie peau, si douce, regarde. Mais sa mère le prend une fois de plus très très mal. Et elle lui dit, comment tu peux me dire des choses aussi horribles, tu es une fille dénaturée. Et on retrouve cette analyse, cette définition de fille méchante et dénaturée chez Marguerite Duras, tout le temps. Chez Jean Rhys, tout le temps. Chez toutes en fait, je crois dire là, je suis en train de les passer en revue. Elles sont méchantes, elles ont des mauvaises pensées. Jeanette Winterson, carrément le diable. Et je pense que ça fait partie aussi de ce contre quoi il faut lutter, parce que oser s'exprimer quand on est convaincu d'être le diable, c'est pas tellement commode et on n'est déjà pas aimé au départ, mais ça va pas s'arranger.
D'autant que ça met aussi en lumière la nécessité de l'aveu ou de dire tout, de dire toute la vérité. Vous dites aussi combien toutes ces écrivaines dont vous parlez, Geneviève Brissac, elles mettent ça en jeu, quoi.
Oui, la vérité.
Ouais, la vérité.
L'honnêteté.
L'honnêteté totale, qu'elle paye, selon vous, extrêmement cher.
C'est vrai. Nathalie Ginsburg y insiste beaucoup. S'il n'y a pas d'honnêteté, s'il n'y a pas de rigueur, si on n'est pas au plus près, c'est pas la peine. Et ça, c'est intéressant aussi par rapport à la longue histoire des écrivains, des hommes écrivains qui ont été ambassadeurs, courtisans. Les femmes, elles arrivent comme des sabras, comme on dit en Israël. Et elles, évidemment, c'est beaucoup plus difficile. Elles sont obligées d'être honnêtes parce que sinon, elles vont plus être rien du tout.
Se disent-elles ?
Oui.
Se disent-elles ?
Se disent-elles.
Mais oui. Ce qui est intéressant, c'est que c'est
ce que
à la
crois,
fois,
moi.
Oui, mais c'est oui. À la fois peut-être un résultat de l'histoire culturelle et éventuellement de l'histoire d'un mauvais traitement. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a aussi un résultat littéraire. Ce rapport à la vérité, ça induit aussi une forme d'écriture qu'on peut finir par aimer.
C'est vrai, tout à fait.
La notion de féminisme vous paraît une notion importante?
Pas du tout, non. Les femmes, pour leur émancipation, s'alignent sur les hommes. C'est ça que je trouve très regrettable. J'aime pas du tout les suffragettes. Les femmes deuxième sexe. Je trouve que la femme, elle est encore à la proto-histoire de la femme. Elle a tout à faire. Son histoire est à venir. Mais s'aligner sur l'homme pour faire reconnaître ses droits, c'est marquer le coup. C'est stupide. Comme si l'homme était le critère de l'individualité.
Mais alors, quel est le critère à venir de la femme?
Son naturel.
Mais si la femme est un animal relativement aliéné, le naturel est une question qui reste à débattre.
Il est aliéné de l'extérieur, il a été aliéné par l'homme, qui s'en est servi pendant des siècles. parle de la chrétienté. Mais je veux dire, je parle d'un vrai naturel, pas du naturel, comment dire, pas du naturel opprimé. Ce n'est plus le naturel. C'est en allant de l'avant, à partir de notions très élémentaires comme l'éducation, en laissant les filles grandir comme les garçons, que la femme récupérera son naturel. Elle l'a perdu à cause de l'homme. Tout ça sont des valeurs grossières qui ont fait le pouvoir de l'homme. C'est les valeurs guerrières, le courage, etc. Il faut nettoyer tout ça.
En 1980, chargé par le journal Le Monde de faire une enquête sur la gloire en littérature, je décide d'interroger Marguerite Duras. Je lui envoie une lettre, et puis j'attends. Je vis sous les toits, dans le quartier du Sentier. J'ai un bébé. À 7h du soir, l'enfant pleure. On dit que c'est un signe d'une angoisse métaphysique. On dit que c'est l'heure où les lions vont boire. On dit aussi que c'est de l'acidité gastrique. Ce peut être ça et encore bien d'autres choses. Toujours est-il que chaque soir, comme aux vêpres, tel un carillon, l'enfant pleure, longtemps et violemment. J'ai l'impression qu'elle se souvient de quelque chose, mais de quoi ? L'enfant pleure. Je la berce maladroitement pour l'apaiser. Je la promène de long en large. Je fais de mon bras une nacelle. Je lui masse le ventre. Je ne supporte pas les sanglots des enfants. Le téléphone sonne. Je réponds. Je tiens dans mes bras l'enfant qui crie toujours. La voix dit « Bonjour, c'est Marguerite Duras. » Je crie au père de l'enfant. « Prends le bébé, c'est Marguerite Duras. » Et il enlève l'enfant, il l'éloigne de l'appareil, il lui enfourne un biberon dans le bec. La voix « Oh, je n'entends plus le bébé. » Un « Oh » si vrai, si sincère et si drôle aussi. Moi, redonne-moi l'enfant, elle aime l'entendre pleurer. C'est notre première rencontre, pour chacune de nous trois, un moment arrêté. Nadia devient l'enfant qui pleure dans l'été 80. C'est elle, oui, un personnage de livre. Sa complicité profonde avec Marguerite Duras, je ne m'en aperçois pas tout de suite. Il me faut même des années pour la découvrir. Comme elle nous reste obscure, les personnes les plus proches et que nous aimons le mieux. Le destin nous a de nouveau rapprochés, l'enfant, Marguerite et moi, des années plus tard. C'était en 1996, et elle était malade. J'avais écrit un portrait d'elle, un très long portrait. Ma machine à écrire était morte au milieu de l'article. C'était comme une course de fond avec lièvre. J'étais le lièvre, acharné, solitaire. Nous sommes partis à Prague, Nadia qui venait d'avoir 17 ans et moi. Nadia claquait des dents de fièvre, les rues de Prague étaient gelées. Sophie m'avait prêté des chaussures en peau de sanglier. Elles ressemblaient à des jonques poilues. Nous marchions vite toutes les deux, avec Nadia, cherchant des cafés où nous réfugier, où réchauffer nos âmes glacées, nos poings serrés. Ce jour-là, nous avons erré dans le cimetière juif couvert de neige. Puis nous sommes entrés dans un bar aux tables de bois, qui sentait le vin chaud à la cannelle, je crois. Mais c'est un souvenir ancien, et forcément j'enjolive. Il y avait des journaux sur la table, un titre. Marguerite Duras est morte. Dans le journal, le portrait que j'avais écrit, je ne l'ai pas reconnu tout de suite. C'était étrange, comme d'entendre sa voix sortir d'une bouche d'ombre, et Nadia a fondu en larmes. L'enfant pleurait encore, Marguerite. Mais cette fois-ci, nous savions pourquoi, vous et moi.
J'ai le cœur battant en écoutant cette lecture de Romain de Bec-de-Lièvre et je voulais vraiment qu'on entende ce texte Geneviève Prissac juste après l'archive de Marguerite Duras qui date, elle, de 1966 pour dire la liberté que vous vous offrez dans ce livre-là. C'est-à-dire que c'est un essai sur des écrivaines que vous avez lu, c'est un essai documenté et puis c'est aussi un livre de nouvelles. Pour qu'existe ce genre de d'échappée qui permette de dire, qui permette d'imbriquer plein de choses, votre vie de femme, votre vie de journaliste à ce moment-là, d'écrivaine, de maman, et aussi de touriste à Prague. Mais comme si finalement un essai sur ces écrivaines ne pouvait pas se passer de faire littérature.
C'est comme si ça pouvait pas être sec, quoi.
Enfin, au sens, je dis pas que le savoir littéraire est une chose sèche, et je pense que quand elle est bien faite, cette chose-là, elle est nécessairement fertile et nourrissante. Mais vous poussez le curseur un tout petit peu plus loin pour ce livre-là.
Oui, c'est vrai. Je me souviens d'une toute petite histoire. D'abord, j'aime les histoires et j'adore les digressions et les histoires qu'on rajoute, qu'on incruste à l'intérieur d'histoires, comme faisait si bien Karen Blixen, justement. Je me souviens d'une scène où l'on voit Virginia Woolf et sa sœur Vanessa sous une table parentale. Elles sont en train de discuter pour savoir si les chats noirs ont une queue ou pas. Et Vanessa dit, je crois, non, les chats noirs n'ont pas de queue. Et Virginia, rassurée de cette vérité acquise à
tangible.
Deux, tangible et avérée par le fait qu'elles sont deux, ressort très contente de dessous la table et écrit ça dans son petit journal de petite fille. C'est pour dire que c'est une vieille pratique culturelle, si tant est que j'aime cette expression pratique culturelle, je crois pas du tout que je l'aime et que personne puisse l'aimer d'ailleurs, la conversation, cette façon de jouer au ping-pong ou de pile-poulet, qui consiste à faire former une hypothèse et puis une autre femme avec qui vous êtes en train de discuter ou de bavarder va dire « oui, mais moi j'ai plutôt vécu ceci comme ça, alors ne crois-tu pas que… » Et puis de nouveau on dit « oui, mais… » Et on construit comme on fait des châteaux forts ou des équilibres, on construit des hypothèses et des histoires et des théories qui sont un mélange de ce qu'on pense, ce que j'appelle les émotions de pensée, de ce qu'on partage, de ce qu'on vit. Et là encore, pour citer Virginia Woolf, l'amitié pour moi et le fait d'avoir des amis et d'échanger avec elle est indissociable de la pensée. Je ne suis pas certaine que je sache penser toute seule, ce n'est pas très agréable, mais c'est comme ça. En revanche, confrontée à la pensée d'une autre, alors là, je suis transportée de joie à l'idée que quelqu'un d'autre a pensé presque comme moi. Mais pas tout à fait, parce que c'est pas les mêmes conditions. Et peut-être que les femmes, puisque au temps de Duras, en 66, on dit la femme, l'homme, et moi ça me heurte terriblement ce la femme, l'homme, je ne parle jamais comme ça. Il y a des femmes, des hommes. Mais il est certain que la littérature est un bon terrain, parce qu'on peut montrer qu'il y a 500 milliards de façons d'être très légitimement une femme, et que même soi-même, on peut être on est des tas de femmes superposées qui vont fleurir, s'épanouir, se contracter, réfléchir en se confrontant à une autre voie, une autre expérience. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça que la littérature m'apporte, et qu'il n'y a pas de dogmatisme à porter. En revanche, la liberté d'être soi-même, ça, il n'y a rien de plus important.
Donc, vous dites aussi que Marguerite Duras, elle vous met sur une piste de vous-même, que mm-hmm. Virginia Woolf, elle vous met sur une piste d'une autre partie de vous-même, que Blixen, pareil, que Edna O'Brien, pareil, etc., etc.
Exactement.
Et alors, ça renforce, je ne sais plus du tout à quel chapitre vous écrivez ça, mais qu'en fait, il y a une joie à se découvrir plusieurs, qu'elle est égale qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, mais que peut-être que l'autorisation, elle est un tout petit peu moins évidente lorsqu'on est petite fille.
Exactement.
Et qu'on a l'impression qu'on a moins le droit à la pluralité.
C'est vrai. Mais le gros avantage des femmes, c'est que, c'est une généralité, elles ont toujours lu, elles ont toujours été Don Juan, Cyrano de Bergerac, le Comte de Monte Cristo, et que c'est plus difficile pour les hommes qui y accèdent, c'est vrai pour les rôles sociaux aussi, plus lentement, d'accéder à ces immenses pans de littérature portés par des femmes.
Mais ça bouge là.
Oui, je crois. Mais ça peut aussi reculer. C'est les deux en même temps, comme toujours. Vous avez Vous avez vraiment les deux mouvements. C'est pour ça que j'ai jugé indispensable.
Osons-le, mais... osons-le, allez.
Non, pas du tout. Non, c'est pour ça que ça me paraissait, disons, intéressant de voir qu'est-ce que ça donnait presque 20 ans après, des hypothèses donc formulées il y a 20 ans. Qu'est-ce qui avait changé? On me disait, mais maintenant, tout est réglé. Mais on disait déjà, il y a 20 ans, tout est réglé. Et il y a 50 ans, on disait déjà, tout est réglé. Et en 1915, quand Rosa Luxembourg, dans sa prison, réfléchit aux hommes et aux femmes, elle pense déjà que tout est réglé. Donc, ce côté, c'est réglé entre les hommes et les femmes. Mais finalement, c'est pas du tout réglé. C'est réglé entre les hommes et les femmes. Ouais, mais finalement, on va quand même revenir sur l'avortement. Et puis, les femmes, elles commencent à envahir un petit peu trop le paysage. Et puis, c'est pas parce que vous êtes jolie que vous avez tous les droits. Et puis, patati, patati, patata. Et puis, les rivalités entre les femmes. Et puis, la jalousie. Et puis, les... Enfin, c'est pas... Tout ça fait que oui, on avance et oui, on recule.
Oui, mais peut-être que ce qui est intéressant de vérifier 20 ans après, Geneviève Brissac, c'est votre lecture de ces femmes écrivaines. C'est-à-dire que oui, bien sûr, ce texte, à mon sens, il parle de, et il part de cette colère, de ce constat de différence de traitement, mais après, moi, j'ai l'impression qu'on est ailleurs quand même. On est quand même sur votre lectrice de femmes, votre lecture, pardon, de femmes écrivaines, de personnes, au contact et en conversation de ces femmes, de ces écrivaines, de ces personnes, et qu'en fait, il est beaucoup question de la vie et de l'écriture dans ces pages-là.
C'est vrai. À un moment donné, le bonheur, la passion d'être à l'intérieur des livres est tellement...
Prends le pas.
Grand, tellement merveilleux, que après tout, tant pis.
Non, mais c'est fou, vrai, mais c'est comme vrai. Ça. Ce livre, il prend cette pente-là.
C'est vrai.
Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit en tirer comme conclusion, mais là, ça commence en colère, ça commence comme un manifeste, ça commence par poser des choses politiques, sociales, et après, ça plonge jusque dans la phrase et dans le paragraphe pour dire « oui, bah, la paix, c'est là, en fait. » Enfin, paix ou la vie ou la vitalité, quoi.
La ressource.
La ressource.
Le fleuve, en fait. C'est tout à fait vrai. C'est aussi une bonne image, je crois, de ce qui se passe pour les personnes comme nous, vous, moi, les personnes qui sont ici, je pense, pour qui les livres sont effectivement un lieu de protection, de paix, c'est-à-dire que vous êtes furieuse pour mille raisons, vous prenez le journal, ça va pas forcément vous remettre d'aplomb et vous redonner des forces, mais si vous plongez dans une nouvelle d'Alice Munro, l'intelligence, la subtilité, puis l'expérience aussi tout simplement, et la beauté vont ranimer cette flamme éternelle qui est aussi la civilisation, hein.
Sisyphe est une femme, c'est le surtitre. Alors on va écouter Sisyphus.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux et Geneviève Brissac.
Did he jump or did he fall as he gazed into the morning mist? Did he raise both fists and say to hell with this and jest? Let the rock roll. Let it go. Let it crash down low. There's a house down there, but I lost it long ago. Thank you.
De toute façon, écrire, c'est terriblement éprouvant. À tout prendre, il faut mieux casser des pierres que d'écrire. Quand j'étais très excitée par la vie, je ne me sentais pas d'inclination à écrire. Et pas davantage lorsque j'étais heureuse. Je n'ai jamais écrit sur ce qu'était que de vivre le bonheur. On ne peut pas décrire le bonheur. Du moins, c'est très difficile. Je n'ai jamais été heureuse pendant de longues périodes. Pensez-vous que ça arrive à qui que ce soit? Je pense qu'on peut se sentir en paix pendant un certain temps. Mais être heureuse, c'est autre chose. C'est plus rare. Et ça n'arrive que par hasard.
But then altogether, I think, well, I think if I had to choose, I'd rather be happy than right. If I had my life all over again and could choose.
Dans l'ensemble, si c'était possible de choisir, je préférerais, si j'avais encore ma vie devant moi, être heureuse que d'écrire.
Elle est si belle, cette archive de 1980, Jean Rhys, et au micro des Nuits Magnétiques sur France Culture. Peut-être avant qu'on revienne sur ce qu'elle vient de dire là et sur ce que vous en dites, vous, Geneviève Brissac, dans votre conversation avec elle, dans le livre La marche du cavalier, Sisyphe est une femme. Vous pouvez nous la présenter?
Oui, Jean Rhys est née à la Dominique, et donc une île tropicale. Et elle va s'y sentir très différente, puisque c'est une petite fille blanche et très solidaire des Noirs qui sont dans l'île. Et ça va définir réellement son rapport au monde, son rapport d'étrangeté. Elle a écrit ce livre qui s'appelle « Prisonnière des Sargasses », qui est absolument extraordinaire. Puis elle va venir à Paris. Et elle est l'auteur de recueils de nouvelles. Moi, j'aime, c'est vrai, beaucoup les nouvelles. Et il y a beaucoup d'auteurs de nouvelles qu'on croise dans « Sisyphe est une femme ». Elle écrit des longues nouvelles absolument intrépide. Je crois que le mot qui, à la fois frileuse et intrépide, c'est les deux mots qui me viennent quand je pense à Jean Rhys, avec un humour ravageur, une façon de se peindre comme une pauvre femme qui va se faire plaquer dans une chambre d'hôtel à Montparnasse et qui quand même a besoin de manger, va se comporter pas bien avec un homme qu'elle va entraîner mais qui va encore se faire jeter. C'est ses relations avec les hommes beaucoup, elle. C'est vraiment Montparnasse et les hommes.
Elle
dit
qu'elle a écrit que par amour.
Qu'elle écrit que par amour. Et elle pense, elle l'a beaucoup dit, mais en même temps je la crois pas tout à fait, qu'un écrivain, que ça n'existe pas les écrivains. Elle théorise beaucoup ça. On est juste traversé, une conception vraiment mystique. Hein. On est juste traversé par moments par l'écriture. Et puis, ça s'éteint, comme une bougie s'éteint. Et il ne faut pas s'énerver. Il faut attendre que ça revienne. Hypothèse tout à fait inverse à celle de la plupart de ses camarades qui disent qu'au contraire, il faut s'asseoir. C'est deux conceptions de la prière, hein, finalement. Il faut s'asseoir à sa table de 10h à midi ou de 5h à 8h, enfin à l'heure qu'on veut d'ailleurs, et attendre que ça vienne, parce que si on ne s'assoit jamais, ça risque pas de venir. Alors, la taille de l'œuvre de Jean Rhys, évidemment, ne plaide pas totalement en sa faveur, mais d'un autre côté, ce qu'elle a écrit, même quand elle prétend qu'elle aurait mille fois préféré être heureuse et ne pas écrire, etc., est tellement puissant, différent, original, humoristique, profond, qu'on préfère, nous, nettement, qu'elle n'ait pas été très, très heureuse.
Oui, mais finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit ça, au final, elle dit « si j'avais la vie devant moi, ce qui n'est pas le cas », donc en fait, elle peut formuler ce qu'elle veut, ça n'a aucune incidence, « je préférerais être heureuse plutôt que d'avoir écrit », ça vient aussi sur le terrain, Geneviève Brissac, de ce que vous dites de ce qu'on appelle la vocation ou de la pratique littéraire, et vous diriez que du côté des écrivains, ce serait « on peut rien faire d'autre que écrire ». Et les femmes, entre guillemets, elles auraient un peu plus de latence, parce que de toute façon, il faut lancer une machine, il faut élever les enfants, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc de toute façon, tu es obligé de faire autre chose que écrire. Alors vous diriez que ça se répartit comme ça?
Moi, j'ai. Oui, tout. Enfin,
sauf que Woolf, elle n'a pas fait d'enfant, par exemple.
Ou elle aurait vraiment voulu, je crois. Enfin, on va pas aborder ce chapitre obstétrique, mais je crois qu'elle aurait souhaité. Non, la différence entre le 18, 19e et le 20e siècle, c'est d'abord que les écrivains étaient très souvent rentiers. Et les écrivaines des femmes riches. Donc, la question de la vie matérielle se posait très différemment. Mais ce que montre très bien aussi la peinture de la fin du 19e siècle, c'est quand on se met. Quand la société devient démocratique, ce que Virginia Woolf d'ailleurs analyse aussi beaucoup, tout le monde peut se mettre à écrire, depuis la femme du boucher jusqu'à Mrs. Brown, la gouvernante, la babysitter, la princesse, etc., etc. Et que donc là, il faut créer les conditions matérielles, d'éducation surtout, pour que ça soit possible. Et il y a évidemment, sur la Terre, quantité de talents et de génies qui ne demandent qu'à s'exprimer. Ça, j'en suis vraiment convaincue. Il y a... Donc, l'histoire de « on n'écrit pas tout le temps » ou « on écrit tout le temps »,
on ne peut pas faire autrement, c'est ça, vous dites, en tout cas du côté des écrivains, il y a cette pensée qu'on ne pourrait pas faire autrement qu'écrire.
C'est très... On peut aussi ne pas faire autrement que de ne pas pouvoir écrire. Enfin, c'est Proust, je crois, qui dit qu'on reconnaît un écrivain à ce qu'il n'écrit pas. Kafka qui dit « la plus grande définition de mon art, c'est que j'en suis empêché ». Enfin, l'empêchement fait quand même partie du génie dans tous les domaines de création. Et le fait de ne pas être empêché et d'écrire 500 millions de pages, on en connaît tous, ne garantit aucunement le génie. Des gens qui disent « j'ai écrit 350 livres », bah ouais, mais bon, dommage pour les forêts. Mais c'est la preuve de rien.
D'ailleurs, elle dit dans cet archive que écrire est terriblement éprouvant, qu'il vaut mieux casser des pierres que d'écrire. Ça nous renvoie à Sisyphe. On n'a pas du tout commenté ce surtitre de Sisyphe est une femme. Quel est ce travail répétitif et continuellement recommencé qui rapprochait les écrivaines de Sisyphe, Geneviève Brissac?
Alors, je l'associe ça à une petite image de Virginia Woolf quand elle épouse Léonard et elle dit le mariage, c'était quelque chose qui vous alourdit terriblement. Il faudrait que nous réussissions à faire un mariage qui serait entièrement léger pour tous les deux. Je pense que la vie ordinaire est pesante pour tout le monde, tous les êtres humains. Ça n'existe pas, la vie quotidienne, mais qu'elle est plus pour les femmes qui ont une antique habitude de la contrainte, de l'obligation, ce qui n'est pas exactement le cas de la même manière pour les hommes. Enfin là, une fois de plus, tout ça avec des réserves de circonstances. Mais par exemple, il y a une chose dont on parle très souvent entre nous, les sorcières, c'est le fait que la plupart des hommes que nous connaissons ont beaucoup de mal à penser à plus d'une chose en même temps. Mais alors, ils y pensent très bien. Ils pensent très fort, ils pensent à une chose. Et nous, les malheureuses, nous pensons à énormément de choses en même temps, mais mal. Bien entendu,
plus dit-on. Ou moins...
Hein?
Dit-on?
Dit-on, oui, c'est ça. Désordonné, etc., etc. Alors, ce qui est curieux, c'est que le monde contemporain se prête plutôt à la polysémie de l'ordinaire, parce qu'en fait, aujourd'hui, nous sommes là avec nos tablettes, nos téléphones, nos instruments connectés. Donc, on a tendance tous à faire beaucoup de choses en même temps, à discuter tout en écoutant un podcast, tout en faisant je sais pas quoi, en épluchant des haricots verts. Bon. Donc ça devrait universaliser la condition des femmes, mais quand même pas. Et les hommes continuent à penser que il faut pas les déranger.
Non mais moi non plus, il faut pas me déranger.
C'est vrai. Zach.
Bah ouais.
Ah oh, mais ça c'est terrible. Et c'est possible de pas vous déranger.
Je fais tout pour.
Oui. Mais est-ce que vous y arrivez vraiment? Moi j'ai jamais pu. J'ai jamais pu faire. Mais peut-être que Marguerite. Non. C'est la question du dérangement, ne pas déranger.
Bah, c'est au centre même
de la question.
Et puis de la chambre à soi, de Wolf, enfin, c'est extrêmement important. On arrive au bout de cette heure qui est passée comme ça.
On voudrait pas davantage vous déranger.
Ni déranger celles et ceux qui nous écoutent.
Exactement. Hein.
On va refermer leur chambre à eux et on va les laisser tranquilles. Puisque vous dites comprendre les choses en les écrivant, qu'avez-vous compris en reprenant ce texte presque 20 ans plus tard?
J'ai compris une chose que je trouve passionnante et que je suis vraiment heureuse de partager ici, c'est que les lectures que l'on fait sont différentes. On fait des lectures différentes du même texte, du même livre, de la même écrivaine à des moments différents en fonction des besoins, des désirs qu'on a, qui vous possèdent à ce moment-là. Si je prends une écrivaine dont on n'a pas eu le temps de parler ce soir, qui est Alice Munro. J'ai lu Alice Munro pour la première fois il y a à peu près 25 ans, je crois, ou 25-30 ans. Et j'y avais vu surtout une écrivaine de l'âpre lutte pour l'émancipation des femmes, sur la question des enfants, en particulier sur la question de la pensée. Et aujourd'hui, en la relisant, et à mesure que son œuvre à elle, d'ailleurs, s'est développée, s'est poursuivie, et j'y vois une écrivaine métaphysique absolument incroyable et une poète très, très exceptionnelle. Et ça, je pense que c'est quelque chose que je n'avais pas perçu à ce point-là à l'époque.
En tout cas, ça donne vraiment tout de suite envie de filer à la librairie ou à la bibliothèque, et aussi de se souvenir de la petite fille qu'on était quand on était au Jardin du Luxembourg ou ailleurs. Merci beaucoup Geneviève Brissac. Sisyphe est une femme, la marche du cavalier aux éditions de l'Olivier.
This book deals with epiphenomenalism, which has to do with consciousness as a mere accessory of physiological processes.
Et je signale que vous serez, Geneviève Brissac, à la Grande Table lundi prochain, le 4 novembre.
Merci Marie Richoux.
Whatever are you doing? Afro Bell. Cervantes, Daniel Defoe, Samuel Richardson, Henry Fielding, Lawrence Stern, Mary Wollstonecraft.
À la prise de son ce soir, c'était Bernard Laniel, à la réalisation Charlotte Roux. Par les temps qui courent, c'est Romain Daubec de Lièvre, Jeanne Aléos, tranquille. Marianne Chassor, Lucie Riandès, aussi une page sur franceculture.fr qui s'appelle Par les temps qui courent, ainsi qu'un podcast sur toutes les applis qui sont en bonne forme. Très belle soirée à vous sur France Culture, c'est bientôt 22h et le journal. Emily Bronte. Hello. Anne Bronte. Hello. Nikolai Gogol. Gustave Flaubert. Oui. William Makepeace Thackeray. Daniel Hawthorne, the letter A. Herman Melville. Ahoy there! Charles Dickens. Wonder, it's so beautiful. Come up here. Anthony Trollope. Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening, good evening. Theodore Dostoevsky. Here comes Steve. Mark Twain. But I can't even spell Mississippi. George Eliot. Emile Zola. Henry James. Thomas Hardy. Joseph Conrad. Catherine Mansfield. Edith Wharton.
Hello, Mr. James.
D.H.
Lawrence.
Never heard of it.
E.M.
Forster.
Never heard of it.
Happy.
is Joyce.
Hello there.
Virginia Woolf.
I'm losing my mind.
Marcel Proust.
Je me souviens plus.
F. Scott Fitzgerald. Ernest Hemingway.